Angers 14h, à Paris 9h, à Port-au-Prince et à New York.
RFI Midi, Clotilde Dumont.
RFI Midi, dernière demi-heure sur le continent américain et en Haïti, d'où l'on va retrouver dans quelques minutes Gonson Pierre, le directeur d'Alter Press, pour revenir sur la situation sécuritaire qui continue de se dégrader à Port-au-Prince. On redoute même que la capitale haïtienne tombe entièrement dans les mains des gangs armés. À suivre aussi le bras de fer entre Donald Trump aux États-Unis et un juge fédéral qui a ordonné une suspension des expulsions de migrants vénézuéliens. On va en parler dans la revue de presse. On va aussi partir au Pérou, où l'état d'urgence est décrété pour un mois dans un climat de violence de plus en plus difficile à tolérer pour les habitants de Lima.
La seule chose à faire, c'est d'appliquer la peine de mort ou de faire comme a fait Nayib Bukele au Salvador.
Reportage à suivre donc à Lima. Et puis l'actualité des Outre-mer avec vous, Tessa Gromane, bonjour.
Bonjour.
Vous allez évoquer l'arrivée de Manuel Valls en Martinique.
Oui, après sa visite en Guadeloupe et hier à Fort-de-France, le ministre des Outre-mer a annoncé un nouveau projet de loi contre la vie chère.
A tout à l'heure.
RFI Midi.
Mais d'abord, le journal international. Bonjour Paul Lonsin-Spinelli.
Bonjour Clotilde Dumais, bonjour à tous.
Des images de chaos qui rappellent une guerre qui a duré 15 mois à Gaza.
Cette nuit, 413 personnes au moins sont mortes dans les frappes israéliennes les plus massives sur la bande terrestre. Depuis la signature de la trêve fin janvier, le Hamas, qui accuse Israël de vouloir imposer un accord de reddition, la diplomatie de l'État hébreu assure de son côté ne pas avoir d'autre choix que de reprendre l'action militaire pour ramener tous les otages. Seule solution, selon elle, après un double refus du mouvement palestinien d'accepter la proposition américaine de prolongation de la trêve pour la Maison-Blanche, le Hamas a choisi la guerre en refusant de libérer les otages. La population gazaoui a vécu donc une nouvelle séquence d'horreur. Écoutez le témoignage de cette jeune femme recueillie à l'aube par notre envoyé spécial permanent à Jérusalem, Sami Boukhalifa.
Les frappes ont commencé à 1h30 ce matin et elles se poursuivent toujours. Je vous parle depuis Beit Laya, tout au nord de la bande de Gaza. Et en ce moment même, des chars nous tirent dessus de manière directe. Je ne sais pas quoi faire, où doit-on aller? Je ne sais même pas ce qu'il se passe ailleurs dans Gaza. On n'a pas d'informations, Internet est coupé, il n'y a pas d'électricité. Où peut-on s'abriter? On est sous la tente.
Propos recueillis par Sami Boukhalifa.
Et ces nouveaux bombardements à Gaza ont provoqué de nombreuses réactions à l'international.
Et parmi les dernières condamnations, celle de l'Arabie Saoudite par exemple, le médiateur qatarien affirme aussi que ces frappes pourraient enflammer la région. Les Houthis, qui ont eux aussi dénoncé les attaques israéliennes sur la bande de Gaza, ont par ailleurs revendiqué cette nuit une troisième frappe en 48 heures contre des navires de guerre américains, l'armée des États-Unis, qui avait en parallèle bombardé à nouveau plusieurs régions yéménites, y compris la capitale Sanaa. Déjà ce week-end, les frappes américaines sur le Yémen avaient tué 53 personnes. Au Proche-Orient toujours, le Liban et la Syrie ont signé hier soir un cessez-le-feu après des échanges de tirs à la frontière entre les deux pays. La veille, dimanche, les nouvelles autorités syriennes ont accusé le Hezbollah d'avoir enlevé et exécuté 3 soldats syriens après les avoir emmenés sur le sol libanais. Le mouvement chiite pro-iranien a immédiatement démenti. C'est loin d'être la première fois que des tensions apparaissent entre ces deux camps, mais ce n'est pas pour autant qu'elles vont dégénérer, selon Cédric Labrousse. Il est doctorant à l'EHESS.
Pour le moment, on est typiquement dans du conflit qui n'est même pas un conflit frontalier, ce n'est pas un conflit territorial. C'est vraiment, pour la part des autorités de Damas, faire régner l'ordre dans une région où le Hezbollah et des groupes affiliés avaient l'habitude de traverser la frontière à l'époque de Bachar al-Assad et où maintenant, cette route est fermée. Et ces groupes d'avoir établi depuis des années des réseaux de trafic, notamment, qui passaient par la frontière. Et ces groupes de vouloir maintenir ces anciens réseaux. Et c'est d'où les oppositions qu'on est en train de voir depuis maintenant, on va pouvoir dire, plusieurs mois. Donc, il n'y a pas à craindre un embrasement généralisé dans le sens où les deux acteurs ont tout à perdre. Le Hezbollah est impliqué à la marge. Il n'a rien à gagner, il est déjà en train de panser ses plaies depuis la guerre du Sud-Liban récente face à Israël. Et les autorités de Damas ont bien d'autres chats à fouetter en termes de sécurité à l'intérieur de leur propre territoire.
Le chercheur Cédric Labrousse, interrogé par Théo Renaudon. Donald Trump va tenter pendant 2 heures cet après-midi de convaincre Vladimir Poutine d'adopter son plan de trêve en Ukraine. Le président russe n'a pour l'instant pas donné son feu vert. Il y a certaines ententes, mais aussi un grand nombre de questions questions dont les deux présidents doivent discuter, a déclaré ce matin le porte-parole du Kremlin.
Et pendant ce temps, plusieurs pays en première ligne face à la Russie veulent redévelopper leur arsenal militaire.
Il y a quelques jours, la Lituanie avait acté sa sortie de la convention de Dublin qui interdit les bombes à sous-munitions. Le pays veut aussi quitter la convention d'Ottawa afin de pouvoir utiliser à l'avenir des mines antipersonnelles. Une décision préparée également par l'Estonie, la Lettonie et la Pologne, qui doit encore être soumise à l'approbation des parlements, Marielle Vituro.
Le retrait de la Convention d'Ottawa est stratégique pour la ministre lituanienne de la Défense qui a poussé les pays de la région à aller dans ce sens. Dans ces pays limitrophes de la Russie, la menace posée par Moscou ne va pas disparaître, peu importe l'issue de la guerre en Ukraine. Il faut pouvoir s'y préparer, indiquent les quatre ministres baltes et polonais de la Défense. En janvier, les autorités militaires lituaniennes avaient donné leur approbation à la sortie de la Convention. Les trois pays baltes élaborent actuellement une ligne de fortification le long de leur frontière avec la Russie, frontière extérieure de l'OTAN et de l'Union européenne. Les mines antipersonnelles pourraient donc être utilisées pour la protéger. Pour prendre les devants des critiques qui considèrent ces mines comme un danger pour la population civile, la Lituanie s'est engagée à respecter les normes en vigueur en matière de protection civile en temps de guerre. Les alliés de l'OTAN présents dans la région ne s'opposent pas non plus à cette décision. Les trois pays baltes développent actuellement leur industrie militaires et veulent de manière générale développer la production de mines et d'explosifs. Marielle Vituro, Vilnius, RFI.
La Russie et sa guerre contre l'Europe, d'après les mots utilisés par Friedrich Merz ce matin, justifient une hausse des dépenses militaires de l'Allemagne dans la journée. Les députés allemands doivent en effet voter un plan d'investissement massif, un texte qui prévoit notamment un assouplissement des règles d'endettement pour l'industrie de défense. Le futur chancelier allemand s'est donc exprimé en faveur d'une nouvelle communauté européenne de défense prête à assurer sa propre sécurité face à l'imprévisibilité du traditionnel allié américain.
C'est l'un des autres grands combats de Donald Trump, la chasse aux dépenses budgétaires excessives.
Après les administrations fédérales, l'agence de développement USAID, désormais ce sont les médias internationaux américains qui entrent dans le viseur du président américain. Voice of America, Radio Free Asia et Radio Free Europe en font les frais, notamment leurs derniers salariés ont été mis en congé samedi dernier. De quoi faire bondir les défenseurs des libertés de la presse et de faire au contraire jubiler certaines dictatures débarrassées de voix critiques, Heike Schmidt.
Pour les régimes autoritaires comme la Chine ou le Cambodge, rien de plus réjouissant que de voir disparaître ces médias trop dérangeants à leur goût et qui auraient un bilan notoirement mauvais selon le ministère chinois des Affaires étrangères. Jamais Voice of America n'a été un média équitable et impartial, écrit l'éditorialiste du Global Times qui ironise le soi-disant phare de la liberté a maintenant été jeté par son propre gouvernement comme un vieux chiffon. Pour ce quotidien nationaliste, porte-voix du Parti communiste, Voice of America n'a été qu'une machine de propagande et une fabrique à mensonges, que ce soit pour diffamer les droits de l'homme au Xinjiang, promouvoir l'indépendance de Taïwan ou encore soutenir des émeutiers hongkongais. Autre régime autoritaire, même réjouissance. Merci, président Donald Trump, écrit l'ex-premier ministre cambodgien Hun Sen sur sa page Facebook. Il s'agit d'une contribution majeure à l'élimination des fausses informations, selon celui qui n'a eu de cesse de réprimer la moindre voix critique dans son pays. En 30 ans, au moins 15 journalistes l'ont payé de leur vie.
Heike Schmidt. Et puis depuis ce matin, Butch Wilmore et Sonny Williams voient la planète bleue se rapprocher. Les deux astronautes américains, bloqués depuis le mois de juin dans l'ISS, ont embarqué dans une capsule SpaceX ce matin. Ils devraient amerrir au large de la Floride, mardi soir, heure locale.
Et c'était le journal de Paul Lonsin Spinelli.
RFI Midi. Gonaïve, 90.5 FM.
Allez, l'actualité haïtienne comme chaque mardi avec Godson Pierre, directeur de l'agence de presse en ligne Alter Presse. Bonjour Godson.
Bonjour Clotilde.
Alors on va évidemment revenir sur la situation sécuritaire à Port-au-Prince avec d'abord cet énième incident hier dans la commune de Delmas. Qu'est-ce qu'on sait de ce qui s'est passé ?
Eh bien, un jeune homme dont l'identité reste inconnue a été tué d'une balle perdue dans les environs de Delma 75, au nord-est de la capitale, Cela s'est produit au moment où allait avoir lieu, non loin de là, l'inhumation de deux militaires des forces armées d'Haïti, salués par des tirs en l'air de leur père. Les deux soldats assassinés sont deux frères. Ils ont été tués à leur domicile à Delma 30 lors d'un assaut de gang il y a 2 semaines. Disons que le nombre de victimes de balles perdues ne cesse de s'accroître. Elles constituent pas moins de 40% des victimes dans cette atmosphère de plus en plus pesante d'insécurité.
Preuve que la situation effectivement sécuritaire se dégrade ces derniers jours. Les médias aussi sont à nouveau pris pour cible, Godson, par les gangs armés, notamment Télé Pluriel.
Oui, les locaux de cette chaîne fondée en 2012 ont été pillés et incendiés le week-end dernier à Delma 19 par des bandits armés de la coalition criminelle Vive Ensemble. Ces bandits ont brisé la barrière principale de Télé Pluriel pour accéder à son enceinte, l'a dépouillée de ses équipements avant d'y mettre le feu. Le même incident a été enregistré ou le même sort réservé auparavant par les gangs à Radio Télé Caraïbes et Radio Mélodie FM dans leur marche funeste sur la capitale.
Alors dans ce contexte, Médecins Sans Frontières annonce aussi suspendre à nouveau ses activités dans son centre de Turgeot.
Oui, décision prise après une attaque armée contre un convoi évacuant le personnel de l'organisation au cours du week-end dernier. Selon MSF, les véhicules attaqués étaient pourtant dûment identifiés il y a 4 mois. L'organisation était amenée à prendre la même disposition dans les mêmes circonstances, ce qui contribue à diminuer davantage l'accès aux soins, la plupart des hôpitaux de la capitale ayant été vandalisés par les gangs.
Alors, on redoute désormais, Godson, que 100% de la capitale tombe aux mains des gangs. Et pourtant, un ancien diplomate prend la plume dans votre média pour dire qu'on peut sortir de la crise avec un peu de bonne volonté.
Aujourd'hui, constate Pierre-Richard Cajuste, nos villes moyennes et petites se sont transformées en véritables foyers de congestion sous le contrôle de groupes criminels armés. La politique doit être repensée, écrit-il, la politique doit être pratiquée autrement, en formulant un pacte de gouvernabilité entre les forces sociales. Cette démarche, ajoute le diplomate, devrait constituer la pierre angulaire de toute transition réussie.
Godson Pierre, directeur d'Alter Press, en direct avec nous sur RFI. Merci Godson.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Aux États-Unis, l'expulsion de 200 migrants vénézuéliens accusés d'être membres d'un gang met le feu aux poudres. Ils ont atterri à bord de 3 avions hier au Salvador où ils ont été incarcérés dans une prison de haute sécurité. Et cela a fait réagir hier le président vénézuélien Nicolas Maduro.
C'est une décision erronée de la part du gouvernement des États-Unis et c'est la plus grande agression subie par un pays d'Amérique latine et des Caraïbes. C'est une agression contre tout le peuple vénézuélien parce que nos migrants ne sont pas des terroristes, ce ne sont pas des criminels, ce ne sont pas des assassins. Nos migrants sont des gens bien, nobles, travailleurs et productifs.
Voilà, beaucoup de colère de la part du président vénézuélien qui en appelle aux Nations Unies pour protéger ces migrants. Bonjour Anne Verdaguer.
Bonjour.
Dans la presse américaine, le président américain, lui, est accusé d'avoir ignoré une décision de la part d'un juge fédéral dans le cadre, justement, de ces expulsions.
Oui, et le ton est monté d'un cran quand les avocats de Donald Trump ont appelé au renvoi de ce juge et ont refusé de répondre à ses questions, révèle le Washington Post. Ce dernier a ordonné une suspension de 14 jours de toute expulsion et a demandé aux avions qui transportaient les Vénézuéliens de faire demi-tour. Les vidéos des autorités salvadoriennes montrent ces 200 migrants descendre de l'avion enchaînés et être conduits dans le centre de détention pour terroristes de Tecoluca. Donald Trump a invoqué de son côté une loi sur les étrangers et la sédition datant de 1798. Elle permet au président américain d'arrêter ou d'expulser des citoyens d'une nation ennemie en temps de guerre et elle n'avait été utilisée jusqu'à présent qu'à 3 reprises, notamment pendant les 2 guerres mondiales. Après cet ultime épisode de tension entre le chef de la Maison-Blanche et le département de la justice, justice. Les États-Unis sont au bord de la crise constitutionnelle, estime le New York Times. Et certains experts estiment que cette hostilité de la part de l'administration américaine envers les juges et leurs décisions marque une rupture dans le fragile équilibre des pouvoirs aux États-Unis.
Au Pérou, l'état d'urgence est décrété à partir de ce mardi pour 30 jours dans la capitale, à Lima, et puis dans la province voisine de Callao. Après l'assassinat par balle d'un chanteur populaire par une bande criminelle, le gouvernement a annoncé déployer les forces armées en soutien de la police. Et la presse péruvienne revient donc sur ce climat de violence.
Oui, depuis le début de cet état d'urgence, deux nouveaux meurtres ont été commis, apprend-on dans la Repubblica, celui d'une chauffeuse de bus abattue par deux hommes à moto la nuit dernière, et d'un homme ramassant des déchets sur le bord de la route. Depuis janvier, plus de 400 meurtres liés à la violence urbaine ont été recensés à travers le pays. Pour la presse locale, il s'agit du chiffre le plus élevé des 20 dernières années. Le journal La Razón explique que des voix s'élèvent au Congrès péruvien pour dénoncer cette escalade de la violence et pour demander la démission du ministre de l'Intérieur, Juan José Santibáñez, sans quoi une motion de censure sera présentée dans les prochaines heures.
Alors comment vit-on ce climat d'insécurité et cet état d'urgence sur place? Eh bien, reportage à Lima de Martin Chabal.
L'état d'urgence n'a pas perturbé le cours de la vie à Lima. Sur l'un des marchés de la capitale péruvienne, Jorge Luis espère tout de même que l'état d'urgence calmera un peu la situation.
Le monsieur te dit que ça ne va rien changer, mais faire sortir les forces armées, ça va aider à combattre la délinquance ici.
Il aimerait même que son gouvernement prenne des mesures encore plus fortes.
La seule chose à faire, c'est d'appliquer la peine de mort ou de faire comme a fait Nayib Bukele au Salvador.
Au Salvador, le gouvernement mène une guerre contre les gangs armés, mais fait face aux critiques des organismes de défense des droits humains. Victoria, assise sur une petite chaise au bord d'un étalage, est désabusée.
Il ne se passe jamais rien. La présidente promet 1000 choses et à la fin, ça ne porte jamais ses fruits. La seule chose que j'attends, c'est qu'elle s'en aille.
Depuis que Dina Boluarte a accédé à la présidence en 2022, le taux d'homicide a explosé. L'an dernier, 2000 personnes ont été assassinées, un tiers de plus qu'en 2023. Martin Chabal, Lima, RFI.
Une nouvelle manifestation demain en Argentine, dans les universités, dans un climat de défiance envers le président Javier Milei. La presse parle, Anne, d'une confiance perdue avec la population.
Oui, Clarine revient sur les violences lors d'une manifestation à Buenos Aires en soutien aux retraités mercredi dernier. La société argentine a toutes les raisons d'être en colère, souligne le journal, qui égrène une longue liste de problématiques. Insécurité déchaînée et croissante, justice bridée, dégradation d'éducation, manque de respect des règles et une société fragmentée, de plus en plus inégalitaire. Et enfin, une méfiance généralisée dans les institutions. Cette confiance est pourtant la clé de la cohésion sociale, rajoute le journal. La Nation parle d'un moment crucial pour Milei et pour le pays, avec des élections régionales qui se profilent dans les semaines à venir. Pour le quotidien, le problème numéro un de l'Argentine reste l'inflation, qui est toujours à 67% sur ces 12 derniers mois. Beaucoup de personnes sont exclues du marché du travail et l'économie informelle se développe. C'est là que l'inflation devient particulièrement nocive, poursuit la Nation, pour des personnes qui n'ont aucune possibilité de recourir à un syndicat pour demander une hausse de salaire. La pauvreté, elle, atteint 35% de la population argentine. Sa réduction est pourtant directement liée à la lutte contre l'inflation.
Anne Verdaguet pour la revue de presse.
RFI Midi, Clotilde Dumais.
Allez, direction à présent la Bolivie, où les archives nationales ont récupéré plus de 150 enregistrements audio de communautés autochtones datant du siècle précédent. Ces prises de son réalisées par des chercheurs en mission en Bolivie étaient jusqu'à présent conservées en France par le Centre de recherche en ethnomusicologie. Des ambiances, des chants, des compositions musicales, c'est un vrai trésor mémoriel hein, puisque ce sont les vestiges de traditions orales, de cérémonies musicales qui ont parfois disparu. C'est un dossier du correspondant de RFI à La Paz, Nils Sabin.
Le son est de mauvaise qualité, le propos difficilement audible. C'est normal, l'enregistrement que vous écoutez a été réalisé sur des cylindres de cire lors d'une mission scientifique française en 1903. On y entend des hommes reprenant en chœur un chant. Cette prise de son fait partie des 157 enregistrements restitués fin novembre aux archives boliviennes par le CREM, le centre de recherche en ethnomusicologie. Rosalia Martinez, anthropologue de la musique et membre du CREM.
Ce sont des archives de recherche, c'est-à-dire que les chercheurs sont allés sur le terrain, ont enregistré les choses pour après pouvoir les analyser, les décrire, faire des publications.
La majorité des enregistrements a été réalisée dans des communautés autochtones en Amazonie bolivienne ou dans des vallées andines. Centrées sur les univers musicaux de ces populations, on entend dans ces prises de son des chants, l'accord d'instruments avant des cérémonies musicales, mais aussi des rires et des discussions. Pour Gabriel Rivera, directeur des archives boliviennes, le retour de ces enregistrements au pays est une excellente nouvelle.
Pour nous, c'est important car ces enregistrements font partie du patrimoine culturel de la nation et on espère que ça motivera la restitution d'autres archives conservées dans d'autres pays.
Mais l'idée de cette restitution n'est pas que les enregistrements restent uniquement dans les archives nationales.
Le Centre de recherche en ethnomusicologie a fait attention à la propriété intellectuelle de ces enregistrements qui appartiennent au peuple indigène. Il y a donc une clause pour que ces prises de son soient rendues de manière gratuite aux cultures, aux groupes indigènes qui avaient été enregistrés.
Il y a quelques semaines, Julian Champion Yarza, musicien et originaire de la nation autochtone Niampara, dans le centre de la Bolivie, a récupéré une copie de ces enregistrements. Des documents précieux alors que les traditions musicales sont de moins en moins transmises au sein de son peuple.
C'est surtout les anciens, ceux de plus de 50 ans qui continuent de jouer avec les instruments, de chanter, car chez les jeunes, il n'y a plus cette habitude.
Chez certains peuples qui ont été enregistrés, certaines pratiques musicales ont totalement disparu. Ces archives permettent donc à ces musiques de ne pas tomber complètement dans l'oubli. Chez les Yampara, la situation n'en est pas encore là, mais les enregistrements leur ont déjà permis de comparer l'évolution des chansons sur les trois dernières décennies.
Avant, ils chantaient la vie, nous racontaient les chants, les animaux, les plantes. Maintenant, les musiques parlent d'amour, d'assassinat, de violence. Les thèmes ont changé, j'ai remarqué.
Pour le musicien comme pour Rosalia Martinez, le retour de ce type d'archives peut participer à un regain d'intérêt des jeunes générations pour ces traditions musicales. Rosalia Martinez.
Il y a une nouvelle conscience de l'importance de tout cet héritage culturel des communautés. Et donc, les jeunes s'intéressent beaucoup à ça. Eux-mêmes inventent de nouvelles façons de jouer les musiques, de nouveaux contextes.
La restitution est loin d'être terminée car dans les prochains mois, de nouveaux enregistrements seront envoyés aux archives boliviennes. Nil Sabin, La Paz, RFI.
Allez, il est 9h22 cette fois-ci à Ottawa, une toute autre musique au Canada, où un vent de patriotisme souffle sur les réseaux sociaux. We will survive, as long as we can think and work, we know we'll stay alive. Canada, nous survivrons, voilà des chansons, des vidéos qui déferlent en ligne en réponse aux attaques économiques et verbales de Donald Trump contre le pays. Il y a des vidéos, Nafia Liber, qui sont vite devenues virales.
Elles ont clairement de quoi trouver écho en ce moment, avec cette montée soudaine de fierté nationale et de résilience face à la guerre commerciale avec les États-Unis. Et la reprise de We Will Survive qu'on vient d'entendre a accumulé plus d'un million de vues en 2 semaines à peine sur YouTube, alors que d'habitude, les publications de ce compte peinent à franchir le millier de clics. Et c'est le même succès que connaît une autre chanson, dans un style plus rock cette fois, et qui s'affiche comme un hymne canadien anti-Trump. Trump, stay away. Hey, leave us to our peace today. Le message est sans équivoque pour le président américain qui est décrit comme un gros bonhomme orange au sourire douteux. Donald reste loin de chez nous et laisse-nous vivre en paix comme on en a l'habitude. Et le tout est accompagné d'une compilation vidéo de selfies de dizaines et de dizaines de Canadiens qui font un doigt d'honneur au président américain. Un geste fort mais qui rappelle que c'est bien Donald Trump qui est la cible de la grogne actuelle et non les Américains dans leur ensemble.
Canada qui se rebiffe, Nafia Liber depuis Montréal. On passe à l'actualité des Outre-mer avec vous, Tessa Groman. Et donc après la Guadeloupe, Manuel Valls est en visite en Martinique.
Oui, il est arrivé hier et lors d'un discours à Fort-de-France, le ministre des Outre-mer a annoncé l'examen d'un nouveau projet de loi de lutte contre la vie chère, avec notamment le renforcement de la lutte contre la concurrence dans les Outre-mer. Satisfaction mesurée de Jean-Philippe Nilor, député et membre du mouvement indépendantiste martiniquais. Il répond à Pierre-Yves Honoré.
Il y a longtemps que j'ai pas entendu un ministre affronter comme ça le système de la profitation. Et il faudra travailler à ce que ça se traduise en actes concrets, parce qu'on a l'habitude d'entendre des ministres à l'offensive, peut-être pas autant que celui-là, mais si on sait lire entre les lignes, c'est une véritable déclaration de guerre à un système colonial qui a vécu ce que nous dénonçons depuis très longtemps. J'ai vraiment hâte de participer concrètement au niveau législatif à la concrétisation de ça.
Et le ministre des Outre-mer a également annoncé une aide de 10 millions d'euros pour les entreprises touchées par les émeutes contre la vie chère l'an dernier en Martinique. Deuxième jour de grève des enseignants en Guyane. Ils réclament des postes mais aussi des moyens à hauteur de ceux de l'Hexagone. Hier, un rassemblement s'est tenu devant la sous-préfecture de Saint-Laurent-du-Maroni, région particulièrement impactée par ce manque de moyens. Manuel Roussel est représentant de l'intersyndicale des enseignants.
Et nous, pour l'Ouest, on a des demandes spécifiques, en fait. Parce que, par exemple, Saint-Laurent, dans les écoles maternelles et primaires, il n'y a aucune restauration scolaire. Vous ne trouverez aucune académie à l'échelle nationale où on ne nourrit pas, où on ne propose pas de nourrir les enfants. C'est quelque chose de totalement surréaliste. On a l'impression d'être dans un pays du tiers-monde quand on voit une organisation comme celle-là. Ce n'est pas du tout à l'honneur de notre pays d'avoir une qualité de l'accueil des enfants qui soit aussi compliquée.
Des propos recueillis par Terence Moy, Guyane la première. Retour en Martinique, où des techniciens de la communauté d'agglomération du nord de l'île ont visité hier une station d'épuration nouvelle génération. Elle se trouve sur la commune du Robert. Visite dans le cadre de la Semaine de l'eau, Christine Cupit.
La station de Pontalléry est une exception en Martinique. Il en existe 109 sur le territoire. Plus de 80% des stations de traitement des eaux usées ne sont pas conformes. Gérald Bricktown, technicien de Cap Nord.
Maintenant, on a de plus en plus d'exigences puisque les pollutions sont de plus en plus importantes. Et donc, du coup, les stations nouvelle génération comme celle-ci permettent justement de s'adapter.
L'assainissement est la première cause de pollution sur le littoral. Gaël Yélard, chef de projet à l'Office de l'eau.
On a tous une part de responsabilité sur les eaux usées qu'on produit. Et c'est un énorme chantier à l'échelle de la Martinique que de remettre ces fosses septiques aux normes, les stations d'épuration aux normes.
La visite de la station de Pontalléry s'inscrit dans le cadre de la Semaine de l'eau. L'occasion de rappeler l'importance de préserver la ressource, mais également les milieux aquatiques.
Un reportage de Christine Cupit, Martinique la première. Et la Semaine de l'eau se termine samedi 22 mars, qui sera journée mondiale de l'eau.
Merci beaucoup Tessa Gromane. Il est 13h, presque 27 en temps universel. On arrive à la fin de ce RFI Midi. Et on se quitte avec un peu de musique. On continue d'ailleurs avec la musique canadienne dont on parlait tout à l'heure. Cette fois-ci, c'est avec Lisa Leblanc. Quoi si tu fais ça pour sur RFI. Leblanc sur RFI. Merci à Yann Eligouin qui était à la réalisation de ce RFI Midi. Emmanuel Klotz à la rédaction en chef. Moi je vous dis à demain. Et en attendant, dans un instant, c'est De Vive Voix avec Pascal Paradis.
Sortir le pire du monde. Chacun a différent de même. Ce que tu fais là, tu prends des barbouillettes puis tu laves la bouche avec du savon.
Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
Danama, en bambara, ça signifie digne de confiance. Et c'est le titre du nouvel album du groupe d'ethio jazz français Ahad Kilo. 12 morceaux qui font la part belle à la voix de la chanteuse malienne Mamani Keïta. Ils seront nos invités et nous ferons le cadeau de 2 titres en live.
Sur le Pont des Arts, avec Nathalie Amar. Du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.